Radio Campus et les radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs. Une invitation à partager une soirée avec des chercheurs et des chercheuses dans des centaines de villes d'Europe, dont 16 en France.
La Nuit européenne des chercheurs, c'est aussi à Saint-Étienne. Et nous proposons trois parcours croisés. Le premier, communiquer sans parole avec des invités doués de parole. C'est plus pratique pour parler au micro, il est vrai. Nous sommes avec Camille Bianic. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes postdoctorante en bio-végétal à l'université Jean Monnet. Et puis également avec nous, Léo Perrier, vous êtes doctorant en bioacoustique à l'Université Jean Monnet, laboratoire ENES, c'est bien ça?
Bonjour, oui, c'est exactement ça.
Alors, communiquer sans parole, que nous allons tenter de décliner en s'intéressant à vos objets de recherche à l'un et à l'autre. Tout d'abord, Camille Bianic, vos recherches tournent autour de l'odeur des plantes et notamment, je crois que votre plante amie de laboratoire, c'est le pélargonium.
Oui, c'est ça. Donc le pélargonium, c'est un peu un cousin du géranium pour ceux qui ne le connaisseraient pas.
Et le pélargonium est du coup une plante pratique à étudier, plus qu'un géranium justement, puisque vous parliez de son cousin.
Bah alors nous, on étudie le pélargonium, parce que voilà, faut bien étudier une plante. On étudie les feuilles du pélargonium, puisque ce sont elles qui sont odorantes et non les fleurs. Et voilà, on essaye de décrypter les différentes odeurs des différentes espèces de pélargonium.
Vous, Léo, c'est la souris rayée d'Afrique et votre ami de laboratoire. Comment s'est fait la rencontre avec cette souris?
Comment s'est fait la rencontre avec cette souris? Ben, un peu par hasard, en fait. On a eu la chance d'avoir un laboratoire partenaire à Strasbourg qui avait ces souris rayées africaines et qui nous offrait aussi la possibilité d'aller les étudier sur le terrain en Afrique du Sud. Et dans mon laboratoire, on cherchait un nouveau modèle, un modèle de mammifère avec un système social assez complexe, avec des animaux capables d'avoir plusieurs interactions, que ce soit avec leur père, leur mère, leurs frères et sœurs. Et ben, du coup, comme ça, on s'est retrouvé avec des souris rayées à Saint-Étienne pour étudier leur communication vocale.
Est-ce que les plantes, ou le pélargonium, ou les plantes en général, Camille, ont un système de communication entre elles, notamment via les odeurs?
Et ben c'est exactement ça. Alors, comme on sait, les plantes ne peuvent pas parler. Donc c'est un peu compliqué, par exemple, pour dire « attention, il y a un herbivore qui arrive ». Donc le moyen de communiquer entre plantes, c'est souvent avec des odeurs, donc en émettant des odeurs. C'est aussi un moyen de communiquer avec des insectes. Voilà, donc les odeurs permettent pas mal de choses.
Alors la plante communique, prévient les autres à travers une odeur. Est-ce que l'odeur est aussi là pour finalement repousser l'ennemi, entre guillemets?
Et ben c'est ça, en fait. Par exemple, dans le cas du pélargonium que j'étudie, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais il y a de grandes chances que les feuilles, en fait, contiennent ces huiles essentielles et que s'il y a un herbivore ou un autre parasite qui viennent se déposer sur la feuille et commencer à la manger, et ben ça émet ces odeurs et pour répulser en fait ce parasite.
Alors Léo, la souris rayée, elle communique avec des ultrasons. Elle communique essentiellement entre elles, ces souris, ou là aussi l'idée est de donner aussi l'alerte à peut-être des animaux qui sont proches d'elles, ou donner l'alerte pour tenter de repousser là aussi l'ennemi?
Alors ouais, on va avoir une communication d'animaux qui est majoritairement faite entre les animaux de la même espèce. C'est un peu tôt encore au niveau des recherches sur l'animal pour dire s'il y a une communication avec d'autres espèces. Moi, j'étudie majoritairement ce qui est intraspécifique. Mais effectivement, la base de l'ultrason, donc on dit communiquer sans parole pour la souris rayée, en fait, elle communique avec des paroles, mais tellement aiguës dans les ultrasons que nous, on ne peut pas les entendre. En fait, la base de cette communication par l'ultrason, ça va être de pouvoir parler à un individu en particulier sans, par exemple, être entendu par les prédateurs. Et donc, pas les repousser, mais au moins prévenir ces conspécifiques de l'arrivée potentielle d'un ennemi et pouvoir aller se cacher et pouvoir éviter de se faire manger par le prédateur.
Alors, elles communiquent entre elles. Est-ce que ça leur permet, alors évidemment, de donner l'alerte, on l'a bien compris, mais est-ce que ça leur permet aussi de s'organiser pour faire face? Est-ce qu'on peut parler de, si ce n'est d'intelligence de groupe, en tout cas, une communication de groupe?
Alors, ouais, il va y avoir une communication de groupe. Il y a plusieurs... plusieurs indices à propos de ça. D'abord, dans un système social complexe avec plein d'interactions, on va toujours avoir, la plupart du temps du moins, avoir une communication avec des animaux qui vont avoir plein de choses à se dire, des choses différentes en fonction de leur sexe, de la familiarité, de leur rang social. Et puis on va aussi avoir le fait qu'on a des animaux qui sont là pour un peu protéger les autres. Notamment, on sait que chez cette espèce, on n'a jamais tout le groupe qui dort en même temps. On a un système un peu de sentinelle avec toujours au moins un animal qui reste éveillé pour potentiellement prévenir de l'arrivée de prédateurs en pleine nuit.
Est-ce que, Camille, il y a cette idée aussi que les plantes restent toujours en éveil ?
Alors là, pour le coup, ça sort un petit peu de mon domaine de compétence, mais je pense que ce soit en pleine nuit ou en pleine journée, s'il y a un herbivore qui vient et qui commence à grignoter une feuille, c'est un mécanisme chimique en fait. Les odeurs sont, physiques, les odeurs sont contenues dans des petites glandes qui sont à la surface des feuilles, en tout cas pour le pélargonium, et qui sont éclatées par exemple rien qu'au toucher. C'est ce qui fait que par exemple même une feuille de tomate ou une feuille de basilic, quand on les touche, et ben ça sent au niveau des mains, on éclate des petites glandes. Et c'est ça, quand il y a un herbivore qui passe ou un insecte qui se pose, ça éclate les glandes et les odeurs sont émises. Et donc finalement, c'est pas du tout dû à la plante, si elle est en éveil ou pas. C'est clairement un phénomène complètement passif.
Alors, quand on pense à l'odeur des plantes, évidemment, il y a des intérêts, j'imagine, dans la parfumerie, mais également dans les domaines thérapeutiques.
Oui, c'est ça. Alors du coup, dans le cadre du laboratoire, on travaille avec plusieurs groupes, plusieurs industriels de la parfumerie. Et donc, pas mal de ces odeurs, en fait, sentent bon. Et donc, pour des parfums, pour les huiles essentielles, en tout cas dans le cadre d'applications pour l'homme, c'est un champ incroyable.
Alors, vous dites que ces odeurs sentent bon, mais alors du coup, il y a aussi une part de subjectivité de l'homme, comme quand on parle des langages des fleurs, en faisant un petit parallèle, on a décrété que telle fleur voulait dire telle chose, on peut dire que telle odeur sent bon par rapport à nos concepts d'humains, mais est-ce que finalement les plantes entre elles, quand elles émettent des odeurs pour donner l'alerte entre autres, il y a cette notion de bon ou mauvais, c'est subjectif tout ça?
Alors c'est vrai que c'est totalement subjectif, après... Voilà, tout dépend. Si par exemple le but c'est d'attirer un pollinisateur, il y a des molécules que nous on peut considérer comme sentir bon, qui pour un pollinisateur va en effet sentir bon et va l'attirer. Et il y a d'autres molécules que nous on va trouver aussi que l'odeur est agréable et pourtant ça va être un répulsif pour des parasites. Donc c'est vrai que c'est totalement subjectif et ça dépend de beaucoup de choses, comme la concentration aussi de cette molécule. Et après, les molécules évoquent beaucoup de choses. Donc, on sait qu'on a tout un panel de molécules. On sait qu'une molécule peut, par exemple, nous évoquer plus des odeurs de rose, d'autres plus des odeurs de citron, des odeurs de menthe. Et ça, c'est plutôt... C'est quelque chose que nous, l'être humain, avons par notre ressenti olfactif, dit cette molécule ressent plutôt à plutôt telle odeur.
Donc, en gros, parfois, pour avoir une odeur de menthe, quelque chose de mentholé, on ne part pas forcément de la menthe, alors.
Et c'est exactement ça. Typiquement, je travaille sur un pélargonium qui a des odeurs mentholées, parce qu'il a des odeurs, justement, comme le menthol, que l'on retrouve chez la menthe. Il contient beaucoup de cette molécule qui fait que quand on sent les feuilles de ce pélargonium, il sent la menthe. Et au contraire, un autre pélargonium, finalement, il aura plus des odeurs de citron. Et tout ça est dû en fait à une différence dans les molécules qu'il sécrète.
Alors est-ce que les molécules qu'il sécrète, ça joue au niveau de chaque plante, mais du coup c'est quoi qui rentre en jeu? C'est-à-dire c'est le terrain, le lieu d'exposition, c'est si je mets deux pélargoniums au même endroit, est-ce qu'ils vont faire les mêmes odeurs?
Alors du tout en fait, c'est dû à différentes espèces, parce que ces molécules, faut les fabriquer, ce qu'on appelle les synthétiser, et pour tout ça il faut toute une petite usine, on va dire, pour les synthétiser, et c'est justement des enzymes qui agissent pour synthétiser ces molécules au sein de la plante. Et selon les espèces, il y en a certaines qui ont des enzymes pour synthétiser par exemple des odeurs de menthe, et d'autres qui ont des enzymes capables de pouvoir synthétiser des molécules à l'odeur de citron. Et donc deux espèces de pélargoniums différentes vont donner un champ d'odeur différent, parce que ils sont complètement différents.
Alors est-ce que deux souris rayées émettent les mêmes ultrasons Léo dans les mêmes circonstances? Autrement dit, elles sont toutes les deux soumises à un stress, est-ce qu'elles vont émettre le même son?
Alors ça c'est un peu la question qui rapporte gros, on ne sait pas exactement, mais sur les premiers enregistrements qu'on a fait, en effet, on semble avoir ce qu'on appelle au moins une once de signature individuelle. C'est-à-dire que dans la vocalisation de l'animal, on va avoir de l'information qui est portée par cette vocalisation. Et ces informations, on va en avoir deux grands types, qui vont être les informations dynamiques et statiques. Et dans l'information statique, qui ne bouge pas au cours du temps, on va pouvoir avoir cette signature individuelle. Donc la souris qui est capable de dire, en gros, bah, moi je suis Jean-Pierre, ou moi je suis un mâle.
Et est-ce que Jean-Pierre, qui est donc un mâle peut-être chez ces souris rayées, finalement communique avec des ultrasons juste en période de stress, de danger, ou plus largement dans leur organisation, on va dire, sociale?
Alors, on est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est assez incroyable, car c'est un animal qui communique tout le temps. Pour vous donner un exemple, moi, avec deux animaux ensemble pendant une heure, je vais enregistrer une moyenne d'au moins 10 000 vocalisations. Et on va avoir des vocalisations dans énormément de contextes qui sont assez différentes. Et bah, notre but, c'est un peu d'essayer d'associer un contexte avec un type de vocalisation, même si bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça, mais au moins dans les grandes lignes.
Camille, le Pelargonium, donc, on l'a compris, peut donner différentes odeurs, mais il se trouve que certaines plantes finalement refusent qu'on récupère comme ça leur odeur. Du coup, il faut partir sur des composés de synthèse.
Oui, c'est ça. Alors, c'est par exemple, si on prend des plantes où ce sont les fleurs qui ont une bonne odeur, mais que ces fleurs sont toutes petites, et bah, si jamais on veut en utiliser, on va dire, dans l'industrie pour obtenir des huiles essentielles, il faudrait un petit peu ravager tout le champ. Donc pour ça, généralement, on va dire, d'un point de vue industriel, des fois, il est plutôt plus sage de pouvoir synthétiser cette molécule pour l'avoir, on va dire, en plus grosse quantité.
Alors, avant d'être dans le bio-végétal, dans la recherche bio-végétale à l'Université Jean Monnet, vous étiez plus dans le domaine, on va dire, de la chimie. Justement, c'est de passer finalement de cette synthèse, de cette création de synthèse, à revenir vers le végétal, que vous avez bifurqué vers la bio-végétale.
Alors, entre autres, j'ai décidé de me tourner un petit peu plus vers tout ce qui était un peu plus côté environnement et un peu plus nature, et aussi pour explorer de nouveaux horizons, voilà.
En parlant d'environnement, est-ce que Léo, justement, comment on tente de respecter finalement l'environnement qui nous concerne tous aujourd'hui, thème éminemment d'actualité, également le bien-être animal, bref, comment on fait de la recherche en faisant attention à l'environnement et aussi au bien-être animal?
Eh ben, c'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus, parce que quand on travaille notamment en comportement, comme moi, le but, c'est d'avoir des animaux qui ont un comportement le plus naturel possible. Donc forcément, si on a des animaux qui sont à 8 dans une toute petite cage, c'est quelque chose qui ne va pas être possible. Donc pour ça, on va essayer au maximum de reproduire les conditions naturelles. On va avoir du mouvement souvent dans les cages, c'est-à-dire qu'on va déplacer des modules. On va essayer de leur donner à manger d'une manière la plus variée possible, que ce soit dans le type d'alimentation ou dans la façon dont on y donne. Après, comme je le dis assez souvent, on fait quand même de l'expérimentation animale. C'est quelque chose, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas se leurrer. Et c'est des animaux qui seraient mieux dans la nature. Mais en tout cas, nous, c'est dans notre but de faire le mieux possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que si on traite bien nos animaux, c'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats possibles.
L'une des difficultés, c'est finalement que la souris reste le plus naturel possible, ou en tout cas un comportement le plus naturel possible. Ça sous-entend que finalement, vous devez prendre des précautions, puisque le contact avec l'homme pourrait changer leur comportement.
C'est ça, donc il y a des choses à faire attention. On essaye de ne pas laisser tout le temps plein de gens différents rentrer dans la salle et que ça devienne une attraction. C'est pas un zoo, c'est une animalerie de laboratoire et c'est un endroit qu'on utilise pour travailler. Et puis, y a plein de choses à faire comme ça. Donc, je parlais de l'enrichissement et on essaye aussi d'avoir un minimum de... Enfin, même zéro consanguinité, parce qu'on travaille sur un animal qui est sauvage, d'une souche qui a été capturée en 2016. Et donc, le but, c'est pas d'avoir des animaux qui deviennent de plus en plus consanguins et qui potentiellement se dégénèrent un petit peu et qui altèrent leur communication, ce qui est en fait l'opposé de ce qu'on recherche.
Camille, comment fait-on alors pour... chercher sans tout en respectant, on va dire, l'environnement? Est-ce que finalement le contact de l'homme change la vie du Pelargonium?
Alors, le contact de l'homme, pas trop, mais par exemple, s'il y a beaucoup de, par exemple, de maladies ou de parasites, ça peut engendrer des modifications justement au sein des molécules qu'elles émettent et on veut éviter ça. Et donc, bah, on a des, ce qu'on appelle un phytotron. Donc, c'est un endroit où on évite qu'il y ait des parasites ou n'importe quelle contamination qui puisse rentrer. Et donc, bah, il faut vraiment qu'on fasse attention, porter des blouses spéciales, bien décontaminer les chaussures pour marcher, pour éviter d'apporter de la terre de l'extérieur. Donc, on a des conditions comme ça qui sont pour essayer de garder des plants les plus propres possibles et éviter qu'il y ait un stimuli extérieur qui puisse venir gêner justement c'est notre expérience.
Le temps file, mais on a encore quelques minutes, enfin quelques secondes en tout cas. Est-ce que Camille, vous avez une question à poser à Léo, ou inversement, Léo, vous avez une question à Camille, sachant que l'un et l'autre, vous pouvez vous poser donc des questions mutuellement ou faire des remarques sur ce que vous avez dit l'un et l'autre.
Bah, moi, j'avais une petite question pour toi, du coup, parce que, comme je disais, je travaille sur essayer un petit peu lier le répertoire vocal avec le comportement. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ça va pas être une vocalisation chez la souris qui veut dire un comportement, et à l'inverse, dans un comportement, on va pouvoir avoir plusieurs vocalisations. Est-ce que c'est pareil chez la plante ? Est-ce qu'on va avoir donc plusieurs molécules qui peuvent servir à la même chose, ou à l'inverse, plein de choses qui peuvent être faites par une seule molécule ?
Alors, c'est vrai que généralement, on parle d'un cocktail, c'est-à-dire que quand on sent le parfum d'une rose, bah, c'est pas juste une molécule qui donne ce parfum, c'est ce qu'on appelle un cocktail de molécules. Et parfois, une molécule en très petite quantité n'aura pas du tout la même odeur que si on allait en très grosse quantité. Et donc c'est ça où, par exemple, une seule molécule, si elle est très diluée, peut avoir un effet attractif et très concentré, un effet assez répulsif. Et finalement, quand on sent une fleur, une feuille, ce qu'on sent, c'est un ensemble, un cocktail de molécules. Et il suffit qu'on prenne les mêmes molécules, mais qu'on les mette dans des concentrations différentes ou ajouter une autre, juste une seule autre molécule, et ça change complètement l'odeur que ça dégage. Et c'est en ça où ça, c'est là toute la complexité en fait de relier le ressenti d'une odeur avec son spectre moléculaire.
Alors Camille, est-ce que vous avez une remarque ou une question pour Léo pour clore ce parcours croisé ?
Moi, j'aurais peut-être une question par rapport potentiellement au champ applicatif de relier ces sons, ces vocales à un comportement. Est-ce qu'après il y a un aspect, une application directe, ou est-ce que c'est possible potentiellement de pouvoir communiquer avec ces souris en émettant justement des ultrasons de synthèse ?
Alors, ouais, dans les deux cas, oui, une application. En fait, nous, on aime beaucoup travailler sur ce modèle parce que c'est un modèle souris quand même, qui est le modèle le plus présent en laboratoire aujourd'hui avec le rat. Et travailler sur une souris comme ça, qui est assez sauvage, qui a un répertoire très complexe, avec un réseau de communication complexe, comme je le dis depuis tout à l'heure, avec plein d'interactions, ça nous amène une autre dimension, en fait, contrairement à la souris de labo qui est en laboratoire depuis très longtemps et qui, en fait, communique un petit peu moins, qui a un système social plus complexe. On en vient à se poser des questions, notamment, est-ce que quand on fait de l'acoustique sur la souris de labo, on rate pas plein de choses ? Et au niveau de la communication avec ces animaux, oui, c'est quelque chose qui s'appelle le playback, qu'on fait assez souvent, c'est-à-dire renvoyer à l'animal des vocalisations. Et ça, c'est hyper informatif parce qu'en fait, c'est vraiment pouvoir poser une question à l'animal et regarder sa réponse. Donc souvent, une réponse soit vocale, soit comportementale. Et donc, on peut dire, est-ce que par exemple, en envoyant tel cri, on a l'impression que l'animal reconnaît si c'est son partenaire ou pas ?
Ok.
Merci Camille et Léo d'avoir participé à ce premier parcours croisé. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
La Nuit européenne des chercheurs.